إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on a donc terminé lors du dernier cours les questions liées aux ablutions, qui sont la quatrième des conditions de la prière. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il est ensuite revenu à l'énoncé des conditions de la prière. Et il a dit, rahimahullah, الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث. La cinquième condition est de retirer l'impureté de trois, c'est-à-dire de nettoyer l'impureté qui peut être présente sur trois choses ou trois endroits en les purifiant. Puis il a cité ces trois choses et il a dit, rahimahullah, من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. Du corps, du vêtement et du lieu. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés. Et tes vêtements, purifie-les. Donc lorsque tu souhaites prier et qu'une impureté se trouve sur une de ces trois choses, ton corps, ton vêtement ou sur le lieu où tu souhaites prier, alors il est obligatoire pour toi de le purifier car ceci est une condition de validité de la prière. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme preuve le verset 4 de Surat al-Muddathir, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » et tes vêtements purifiés. Or ce verset, comme on l'a vu lors de notre étude des trois fondements, l'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala, il l'a expliqué en disant que les vêtements désignent ici dans ce verset les œuvres, c'est-à-dire purifie tes œuvres de toute forme de polythéisme. Car ce verset, il fait partie des premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lui a été révélé, la prière n'était pas encore légiférée. Quoi qu'il en soit, la purification de ces trois choses, le corps, le vêtement et le lieu de prière, elle est confirmée par de nombreuses preuves et les gens de science sont unanimes à ce sujet. On peut mentionner à titre d'exemple le hadith authentique dans lequel il est rapporté qu'un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de diriger la prière, il priait avec ses chaussures. Il les a alors retirées pendant la prière. Lorsque les compagnons radiallahu ta'ala anhum ils l'ont vu faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont retiré leurs chaussures. Donc après les salutations finales de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés et leur a dit: pourquoi avez-vous retiré vos chaussures? Ils lui ont donc répondu, radiallahu ta'ala anhum, nous t'avons vu les retirer, alors nous les avons retirées. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: en ce qui me concerne, Jibril est venu à moi et m'a informé qu'il y avait une impureté sous mes chaussures. Puis il leur a ordonné que lorsqu'ils viennent à la mosquée, ils vérifient leurs chaussures et de les essuyer s'il y a sur celles-ci une impureté, puis de prier avec. On voit donc à travers ce hadith une des nombreuses preuves concernant cette cinquième condition de la prière qui consiste à nettoyer l'impureté de trois choses, le corps, le vêtement, ainsi que le lieu de prière. On tire aussi comme bénéfice de ce hadith la manière d'agir pour celui qui prie dans un vêtement qu'il pensait pur alors qu'il y a sur celui-ci une impureté. Et deux cas de figure se présentent quant à cette question. Le premier est que tu t'en rendes compte pendant la prière. Dans ce cas, si c'est un vêtement que tu peux retirer, comme ta veste par exemple, ta chéchia ou tes chaussures, alors tu les retires et tu continues de prier. Et ceci n'a aucune incidence sur la validité de ta prière. Comme le prouve le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retiré ses chaussures et il a continué sa prière. Par contre, si c'est un vêtement que tu ne peux pas retirer en prière, c'est le vêtement qui couvre ta aura par exemple, comme ton pantalon,
ou alors le voile pour une femme. Dans ce cas, il est obligatoire d'interrompre la prière et de la recommencer après avoir purifié ce vêtement ou avoir changé de vêtement en en mettant un autre. Il est obligatoire, dans cette situation, d'interrompre la prière puis de la recommencer avec un vêtement pur. Le deuxième cas de figure est que tu ne t'en rendes compte qu'après avoir terminé la prière. Tu te rends compte que tu as prié alors qu'il y avait une impureté sur un de tes vêtements. Qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Est-ce que tu dois recommencer la prière? La réponse est que tu ne dois pas recommencer la prière, car ta prière est valide, mais tu dois simplement purifier ton vêtement pour la prochaine prière. Et avant de terminer sur cette condition, je tiens à souligner que la base concernant ces trois choses, le corps, le vêtement et le lieu où tu pries, la base concernant ces trois choses est la pureté, tant que tu n'as pas la certitude de la présence d'une impureté. Donc tu ne dois pas laisser place au waswas, tu ne dois pas laisser place aux insufflations à ce sujet. Si tu es sûr que ton vêtement a été souillé par une impureté, alors tu le purifies et tu peux prier avec. Mais si tu n'es pas sûr, que tu es dans le doute, alors tu ne dois pas tenir compte de ce doute, car la base est la pureté. Et il en est de même pour le lieu de prière. La base est la pureté, sauf si tu as la certitude de la présence d'une impureté. Par exemple, lorsque tu pries dehors, ceci arrive à beaucoup de personnes, il ne faut pas laisser place au doute ou au waswas et dire « peut-être qu'un animal a ruiné cet endroit, peut-être que quelqu'un a souillé cet endroit par une quelconque impureté ou autre chose comme cela ». La base est la pureté, sauf si tu as la certitude, comme par exemple s'il y a des signes apparents de la pureté comme l'odeur ou autre chose comme cela. Sinon, la base est que l'endroit est pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, la terre est pour moi un lieu de prière et un moyen de purification. Tout homme de ma communauté qui rencontre le temps de la prière, qu'il prie où qu'il se trouve. Ceci indique que la base est la pureté en cela. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, الشرط السادس ستر العورة أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. La sixième condition est le fait de couvrir sa aura, sa nudité. Les gens de science sont unanimes quant à l'invalidité de la prière de celui qui prie nu alors qu'il a les capacités. C'est-à-dire celui qui prie avec la aura découverte alors qu'il a la possibilité de couvrir ce qui lui incombe de couvrir en prière. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous indique donc ici que celui qui n'a pas les capacités de couvrir sa aura, un prisonnier par exemple, qui se retrouve enfermé sans avoir de quoi couvrir sa aura, il ne doit pas pour autant délaisser la prière, mais il prie en se couvrant autant qu'il peut, mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ Craignez Allah autant que vous pouvez. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a informé des limites de la aura pour les hommes et les femmes. Il dit, rahimahullah, وَحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّقْبَةِ وَالْأَمَةُ كَذَلِكِ وَالْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةِ إِلَّا وَجْهَهَا La aura de l'homme est du nombril au genou. Et il en est de même pour la femme esclave. Quant à la femme libre, elle est entièrement aura, sauf son visage, c'est-à-dire pour la prière. Il incombe donc à l'homme de se couvrir complètement du nombril jusqu'au genou lorsqu'il prie. Et si cette partie n'est pas couverte, alors sa prière n'est pas valide. On voit donc la gravité de la négligence de beaucoup de personnes au sujet de cet ordre. Parmi ceux qui prient en pantalon, laissant découvrir leur aura tout au long de la prière. Cette prière, c'est une prière invalide. Il est obligatoire de la recommencer. Tu dois donc faire attention à cela. Tu as fait le trajet jusqu'à la mosquée. Tu as fait tes ablutions. Tu es venu prier, recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu négliges cet ordre aussi simple, qui est de couvrir ta aura pendant que tu pries. Pourquoi tu ne complètes pas tes efforts en couvrant ta aura, en mettant tout simplement un kamis par exemple, au moins pour ta prière, pour préserver la validité de ta prière. En plus de cela, dans le rang derrière lui, tout le monde est gêné. Mais ce qui est grave, c'est que la plupart du temps, personne ne lui dit rien.
Il termine la prière, il se lève et il part sans que personne ne le conseille et lui ordonne le bien avec sagesse. Pire encore, il se peut que certains se mettent à parler sur lui dans son dos. Ils ne le conseillent pas, mais ils parlent sur lui en le méprisant, en le dénigrant. Là, ya akhi, tu n'as pas le droit de faire cela, mais tu dois conseiller ton frère. Aimer le bien pour lui comme tu l'aimes pour toi-même. Il se peut que ce soit un ignorant. Il se peut qu'il ignore ces règles de la prière. Alors qu'est-ce qui t'incombe à toi lorsque tu le vois faire cela? Tu dois lui enseigner. Lui enseigner avec sagesse qu'il fait partie des conditions de validité de la prière pour l'homme de couvrir sa aura complètement du nombril au genou. Et tu seras récompensé pour ce conseil, incha'Allah ta'ala. Et pour toutes les prières qu'il accomplira après cela, en couvrant sa aura comme il se doit. Ceci concerne donc la aura de l'homme. Et les savants ont divergé concernant le nombril et les genoux. Font-ils partie de la aura ou bien sont-ils seulement les limites de la aura? Et le plus prudent est de les couvrir, même si certains disent qu'ils ne font pas partie de la aura, sortant ainsi de la divergence. Quant à la femme, il dit qu'elle est entièrement aura, sauf son visage. C'est-à-dire que lors de la prière, elle doit couvrir entièrement son corps, à l'exception de son visage. Et ceci est l'avis de l'imam, rahimahullah ta'ala. D'autres ont dit, elle est entièrement aura pendant la prière, à l'exception de son visage et de ses mains, car il n'y a pas de preuve claire et explicite à ce sujet. Quant aux pieds, la majorité des savants disent qu'ils font partie de la aura et qu'il incombe à la femme de les couvrir en prière. Donc la sunna pour la femme est de découvrir son visage en prière. Quant à ses mains, il est recommandé de les couvrir, sortant ainsi de la divergence. Et les pieds, il est obligatoire de les couvrir selon l'avis de la majorité des savants. Et le visage, sa délimitation est celle que l'on a mentionnée lors du cours sur les piliers des ablutions. La femme doit donc faire attention de bien couvrir sa tête en prière et de ne rien laisser paraître de ses cheveux qui doivent entièrement être couverts. Et les savants, rahimahumullah ta'ala, ont dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de couvrir son visage en prière à condition qu'elle ne soit pas à la vue d'un homme étranger. Car si elle est à la vue d'un homme étranger, alors dans ce cas, il est obligatoire pour elle de couvrir son visage. Certains diront, oui mais les gens de science ont divergé concernant le visage de la femme. Fait-il partie de sa aura ou non, en dehors de la prière, lorsqu'elle sort par exemple? Le cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala a dit, que tu sois convaincu que le visage est une aura ou non, quoi qu'il en soit, tu es d'accord quant au fait que c'est une fitna, une source de tentation. Donc pour repousser cette fitna, il est obligatoire de couvrir le visage, que tu le nommes aura ou que tu ne le nommes pas aura. Et il a dit vrai, rahimahullah ta'ala. Car le visage de la femme, même si tu ne le considères pas comme une aura, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une fitna. Et la fitna, elle doit être repoussée. C'est pour cela qu'il dit, rahimahullah ta'ala, il est donc obligatoire de couvrir le visage pour la femme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » La preuve à ce sujet, c'est-à-dire la preuve du fait que couvrir la aura est une condition de la prière. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » Ô enfants d'Adam, portez vos parures en tout lieu de prière. Et ce qui est visé par les parures ici, c'est ce qui couvre la aura. C'est-à-dire, ce qui couvre, ce qu'il est obligatoire pour l'homme et la femme de couvrir lors de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc ordonné de couvrir nos aura en tout lieu de prière, c'est-à-dire lors de chaque prière. Et ce qui est ajouté à cela, en termes de parure, lors de la prière, ceci fait partie de la perfection de la prière. On a donc terminé avec ces deux conditions, qui sont le fait de nettoyer l'impureté de ton corps, tes vêtements et du lieu dans lequel tu pries, ainsi que l'obligation de couvrir sa aura en prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il mentionne la septième condition qui est l'entrée du temps de prière et on verra cela, incha'Allah ta'ala, lors de l'assise de la semaine prochaine. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous
et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وَصَلِ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.